Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, nous lirons les versets 16 à 20. Évangile selon Matthieu, chapitre 28, les versets 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Qui sommes-nous ? Voilà le titre de notre série de prédications actuellement. Nous cherchons à répondre à la question suivante. Quelle est la place d'une église locale comme la nôtre dans le plan de Dieu pour le monde ? La semaine dernière, nous regardions à Jean chapitre 11. Qui sommes-nous ? Ce texte répondait à cette question. Nous sommes un peuple à l'écoute du bon berger. Un peuple à l'écoute du bon berger. Dans le texte que nous étudions ce matin, Matthieu 28, nous est présenté ce que Jésus attend de nous. Jésus-Christ nous invite à travers d'un appel à le servir, à nous comprendre comme étant en mission pour lui. En mission pour lui. Tous les matins, je dépose mes enfants à l'école. Et quand je dépose Julia au CP, avant de partir, je lui dis toujours « Passe une bonne journée, je t'aime ». J'en profite avant que cela ne la gêne trop. Mais j'estime important de lui rappeler cette vérité importante avant la séparation, avant de devoir lui dire au revoir. Cette vérité-là mérite d'être dite, d'être rappelée. Bien plus que de lui rappeler qu'elle pourra regarder la patte patrouille quand elle rentrera à la maison. Elle le sait déjà, mais ce n'est pas le plus important. L'importance de rappeler des vérités profondes avant un départ, avant une séparation, avant de dire au revoir. Et pareil avec James, mon fils, j'estime nécessaire de lui rappeler la même vérité. Je t'aime, mais soit moi, soit maman viendra te chercher tout à l'heure. L'importance de rappeler des vérités fondamentales. Nous trouvons dans ces versets de l'évangile de Matthieu les dernières paroles de Jésus avant son ascension auprès du Père. Voilà la dernière chose, voilà la dernière vérité fondamentale que Jésus souhaitait communiquer à ses disciples. Que formule Jésus dans ces versets ? Un magnifique appel à le servir, ainsi qu'un appel à l'annoncer à ceux qui ne le connaissent pas encore. Un appel à le servir. Dans notre texte, Jésus regroupe les 11 disciples sur une montagne en Galilée et leur présente cette mission qu'il leur confie. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc. » Faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Allez, et faites de toutes les nations des disciples. Cette mission, les disciples l'accomplirent de manière extraordinaire. Ainsi, en Actes, chapitre 1er, il y a 120 chrétiens. En Actes, chapitre 2, verset 41, 3000 personnes donnent leur vie à Christ. En Actes chapitre 4, verset 4, il y a 5000 chrétiens. En Actes 21, 10 ans plus tard, on estime entre 5000 et 8000 de plus, pour arriver en 350 après Jésus-Christ à 5 à 8 millions de chrétiens. Ses disciples ont mis tout leur zèle pour appliquer cet appel de Jésus en annonçant l'évangile jusqu'au bout du monde. Du moins le monde tel qu'il le connaissait à l'époque. Ainsi, à la fin du livre des Actes, l'Évangile arrive à Rome, la capitale du monde tel qu'il était pensé à l'époque. Et cela est d'autant plus merveilleux, cette mission des disciples, parce qu'il nous est dit au verset 17 de notre texte, « Mais quelques-uns eurent des doutes. » Plusieurs des disciples avaient des doutes avant le départ de Jésus. Qu'allons-nous dire ? Qu'allons-nous faire par nous-mêmes ? Ce serait mieux s'il restait avec nous. Comment se fait-il ? Comment se fait-il que les disciples passent des doutes à cette annonce puissante de l'Évangile ? La réponse se trouve justement dans l'appel que Jésus lance à ses disciples. Et pour regarder à cet appel, nous allons revenir sur un petit mot qui rythme tout ce dernier. Le mot « tout » que l'on retrouve tout au long de ces versets. « Tout pouvoir, toutes les nations, tout ce que je vous ai prescrit, tous les jours avec vous. » Tout pouvoir, toutes les nations, tout ce que je vous ai prescrit, et tous les jours. Verset 18, tout d'abord, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Tout pouvoir, mot qui est traduit également par autorité selon les versions. Tout pouvoir, toute autorité m'ont été donnés. Cette affirmation de Jésus n'est pas à prendre à la légère. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il n'y a rien sur terre qui ne serait pas sous l'autorité de Jésus. Chacun d'entre nous présents aujourd'hui est sous son autorité, parce qu'il a toute autorité. Tout pouvoir, toute autorité sur terre, sur la lune, le soleil, sur les galaxies, sur le vent, sur la pluie. Tout pouvoir et toute autorité, même sur le cancer ou sur Alzheimer. Il n'y a rien sur terre qui ne serait pas soumis à l'autorité de Jésus-Christ. Tout pouvoir, toute autorité m'a été donnée. Cette vérité, Matthieu, dans son évangile, la présente dès le début. La généalogie de Jésus le ramène à Abraham. La promesse faite à Abraham, promesse que nous avons étudiée il y a quelques semaines maintenant, la bénédiction de toutes les nations à travers Abraham, cette promesse sera accomplie en Jésus-Christ. En Jésus, toutes les nations seront bénies. La France, les États-Unis, la Corée du Nord, le Togo, le Vietnam, la Chine, le Soudan sont et seront bénis en Jésus-Christ. Comment Jésus peut-il accomplir ce qu'Abraham et tous ses descendants jusqu'à lui n'ont pas pu le faire? Parce qu'il a tout pouvoir, toute autorité. Il a toute autorité. Au point où même l'étude des étoiles a permis aux mages de venir apporter leur hommage à Jésus. Parce qu'il a toute autorité. Il a autorité sur la nature, calmant même des tempêtes, marchant sur l'eau. Une autorité dans son enseignement également. Matthieu 8, versets 28 et 29, quand Jésus finit de prononcer ces paroles, les foules restèrent frappées par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non comme leurs spécialistes de la loi. Une autorité aussi sur la maladie, puisqu'il guérit des hommes et des femmes, il ouvre les yeux des aveugles, il ouvre les oreilles des sourds. Une autorité même sur la mort, puisqu'il ressuscite, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 9, une jeune fille. Lorsque Jésus est tenté dans le désert, Satan lui propose de lui donner tous les royaumes de la terre. Mais ce que Matthieu annonce depuis le début de son évangile, c'est que tout appartient déjà à Jésus-Christ. Tout lui appartient déjà. L'autorité de Jésus est présentée par ses miracles, par ses discours. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin de l'évangile de Matthieu, et cette preuve ultime de son autorité, la résurrection. Toute autorité lui revient. Toute la création lui appartient. Ou comme le présente si bien l'apôtre Paul en Romains chapitre 11, verset 36, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Et cela amène l'apôtre Paul à la louange, et j'espère que comprendre cette vérité nous amène également à la louange. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Il n'y a rien qui échappe à son contrôle. Il n'y a rien de trop compliqué à gérer pour lui. Tout pouvoir, toute autorité lui sont donnés. C'est une affirmation majestueuse qui est présentée ici. Toute autorité, tout pouvoir lui sont donnés. Les disciples de Jésus sont invités à aller vers des personnes spirituellement mortes pour leur annoncer un message qu'elles ne pourront accepter par leur volonté propre, par leur propre intelligence. Mais toute autorité a été donnée à Jésus. C'est lui qui va toucher les cœurs. C'est lui. C'est lui qui va amener à la repentance. Celui qui va agir, c'est lui. Toute autorité lui revient. Toute autorité lui a été donnée. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Les disciples sont envoyés dans une mission qui les dépasse largement. Mais puisque toute autorité est donnée à Christ, cette mission sera accomplie. Pas par les forces des disciples, pas par une méthode d'évangélisation, mais par l'autorité et le pouvoir de Jésus-Christ. La garantie de succès de cette mission, c'est la souveraineté du roi Jésus. Rien ne lui échappe. Rien ne lui échappe. Les disciples sont invités à partir en mission pour Jésus-Christ, mais Jésus ne les laisse pas seuls. Tout pouvoir m'est donné, toute autorité m'est donnée. Jésus est celui dont le prophète Daniel voyait comme le contour, comme une image encore floue, en Daniel chapitre 7, versets 13 et 14. Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'Ancien des Jours et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. Oui, à Jésus ont été données la domination, la gloire, le règne. Son autorité est éternelle. Elle est universelle. Tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme au ciel. Cette autorité de Jésus est universelle. Universelle. Et puisqu'elle est universelle, alors elle doit être universellement connue. Toute nation doit reconnaître l'autorité de Jésus-Christ. C'est notre deuxième point. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Toutes les nations. Toutes les nations. Il n'y a pas un seul endroit sur terre où l'évangile n'a pas à être annoncé. Toutes les nations. Il y a à peu près un an, le 17 novembre 2018 pour être exact, un jeune homme de 26 ans, John Allen Shaw, fut tué alors qu'il allait annoncer l'évangile à une tribu isolée, la tribu des Sentinelles, sur une île interdite de la mer, dans l'océan Indien. Alors qu'il arrivait sur cette île réputée interdite pour y annoncer l'évangile, il fut tué par la tribu des Sentinelles avant même de pouvoir leur dire un seul mot. Et cet homme est devenu la risée d'Internet. Quelle idiophonie, pouvait-on lire en ligne. Un fanatique chrétien qui aurait mieux fait de se taire et de rester chez lui. Mais en réalité, ce que John Allen Shaw a fait est tout simplement magnifique. Il a compris que toute nation est importante aux yeux de Jésus. Il n'y a pas un endroit sur terre où l'évangile n'a pas à être annoncé. La tribu des Sentinelles a besoin d'entendre le message de l'Évangile. Toute nation, tout peuple mérite d'entendre l'Évangile. Parce que l'autorité de Jésus est universelle. Il n'y a pas un peuple qui peut se permettre de ne pas entendre parler de l'autorité universelle de Jésus-Christ. Un dernier mot sur cette tragique affaire. Parce que l'autorité de Jésus est universelle, cela veut dire qu'il n'y a en réalité aucun peuple fermé à l'évangile. Aucun. Parce que Jésus détient toute autorité, tout pouvoir. Si aujourd'hui la tribu des Sentinelles semble fermée à l'évangile, n'oublions pas que Jésus a tout pouvoir, toute autorité. Je ne sais pas quel est le plan de Dieu pour cette tribu ou pour d'autres peuples similaires. Mais je sais que Dieu, dans sa souveraineté, peut faire en sorte que demain, ou dans 10 ans, ou dans 100 ans, cette tribu s'ouvre à l'évangile et reconnaisse l'autorité de Jésus-Christ. Folie aux yeux du monde, mais sagesse de Dieu. Allez donc, Jésus souhaite que l'évangile soit annoncé au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, toutes les nations. Une remarque grammaticale sur notre texte. Dans ces versets 19 et 20, un seul verbe en grec est utilisé à l'impératif, tous les autres étant des participes liés à ce verbe. Le seul impératif dans ces versets, c'est « faites des disciples ». Les autres verbes dépendent de celui-là, c'est-à-dire « étant allé, faites des disciples, les baptisant, leur enseignant ». Le commandement, c'est faire des disciples. Mais ceci dit, cela ne remet pas au second plan cette idée de partir pour annoncer l'Évangile. C'était évident pour Jésus que ses disciples allaient chercher à annoncer l'Évangile. Évident, au point même qu'il n'avait pas besoin d'en faire un ordre. Lorsque nous apprenons une bonne nouvelle, nous avons envie de la communiquer. Et c'est pour cela qu'on fait des faire-part de mariage, de naissance. On souhaite partager les bonnes nouvelles. À plus forte raison encore pour la bonne nouvelle du salut offert en Jésus-Christ. Et d'une certaine manière, la question que nous devrions nous poser n'est pas celle de savoir s'il nous faut partir ou non pour l'Évangile. Mais ce devrait plutôt être, pourquoi est-ce que je devrais rester ici ? Pourquoi est-ce que je devrais rester ici ? Et ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Tous ne sont pas appelés à partir pour aller dans une contrée lointaine où l'Évangile n'a pas encore été annoncé. En revanche, tous nous sommes appelés à témoigner là où nous sommes. La Corée du Nord a besoin de l'Évangile. Le Tadjikistan en a besoin. La Belgique en a besoin. Paris a besoin de l'Évangile. Paris a fondamentalement besoin d'entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Paris en a tant besoin. Il y a 15 ans, notre famille d'église avait 2 églises sur Paris. Aujourd'hui, il y en a 7. Paris, rue de Sèvres, le Tabernacle, la Garenne-Colombes, les Ternes, Connexion à Châtelet, Saint-Lazare, la Plaine. Gloire à Dieu, n'est-ce pas ? Mais ce n'est pas suffisant. Loin de là même, ce n'est pas suffisant. Avant que l'église de Saint-Lazare ne voie le jour, il y avait là un quartier de 100 000 habitants, sans la moindre église évangélique. Aujourd'hui, c'est une église pour 100 000 habitants à Saint-Lazare. Le Conseil national des évangéliques de France, qui représente 75% en gros des évangéliques en France, a comme projet d'avoir une église pour 10 000 habitants. Paris a tant besoin de l'Évangile. Saint-Lazare a besoin d'au minimum 9 autres églises pour espérer que chaque habitant du quartier puisse entendre au moins une fois dans sa vie l'Évangile annoncé de manière fidèle. Paris a besoin que ses chrétiens se lèvent pour annoncer Jésus-Christ à ceux qui ne le connaissent pas encore. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Ce dont le monde a besoin, et à plus petite échelle, la France, et ce dont Paris a besoin, ce sont des disciples fidèles. Des disciples qui répondent à cet appel que Jésus lance ici. Cet appel à faire d'autres disciples. Faire des disciples. Faire des disciples, le voilà dans la phrase grecque, l'impératif. Faire des disciples. Que vise Jésus dans cette phrase ? Probablement bien plus que nous ne le pensons. Trop souvent, nous nous arrêtons à ce qui vient juste après. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est vrai, même si Jésus commence en parlant du baptême, ce qu'il vise ici n'est pas d'abord le nombre de cartes de baptême qu'une église peut donner. Jésus souhaite bien plus que seulement une décision à un instant T de le suivre. Et c'est ce qu'il explique à travers le prochain tout de ce texte. Tout pouvoir, toutes les nations, et ici verset 20, « Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » Tout ce que je vous ai prescrit. Le baptême, oui, c'est la première étape de la vie chrétienne. Mais si nous arrêtons ici notre compréhension, alors ce n'est pas ce que Jésus a en tête. « Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » C'est ce qu'ont fait les premiers disciples. Je suis frappé de voir la profondeur du contenu des épîtres qui sont envoyés pour des églises qui sont jeunes dans la foi. Quelle maturité pour bon nombre de ces églises, églises qui étaient pourtant bien plus jeunes que la nôtre. Jésus ne veut pas des chrétiens de nom seulement. Il souhaite des disciples, des hommes et des femmes qui marchent à ses côtés, des hommes et des femmes dont la vie est transformée par la puissance de l'Évangile, des hommes et des femmes qui cherchent à appliquer dans leur vie tout ce que Jésus a enseigné. L'obéissance. Voilà ce qui différencie un disciple authentique d'un chrétien de nom seulement. L'obéissance. Voilà ce que Jésus souhaite pour nous, que nous mettions en pratique tout ce qu'il a prescrit. Et vous savez, il est parfois difficile de mesurer l'obéissance. Parce que je ne sais pas pour vous, mais pour moi, il y a plein de commandements du Seigneur avec lesquels je suis parfaitement en accord. Et où ce n'est pas compliqué d'obéir, parce que c'est ce que je souhaite. Mais le vrai révélateur de l'état de notre cœur, c'est de savoir ce qu'il en est quand nous ne souhaitons pas par nous-mêmes obéir à Dieu. Dans ces moments-là, comment réagissons-nous? Que vivons-nous? Obéissons-nous? Faites de toutes les nations des disciples en leur enseignant à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Jésus ne nous demande pas seulement de parler de lui aux hommes, ni même de les amener seulement à la nouvelle naissance, mais d'en faire des disciples fidèles. Voilà où se situe notre vraie responsabilité. Et ainsi, nous comprenons que l'évangélisation d'un pays ne consiste pas seulement en une vague annonce du message, mais plutôt à un enseignement en profondeur de l'Évangile, jusqu'à ce que ces personnes soient capables à leur tour de transmettre l'Évangile à d'autres. De première vue, cela peut sembler exigeant et lent comme procédé, mais ce sont là les mathématiques du Seigneur. Regardons aux chiffres. Imaginons que Dieu, au travers de votre témoignage personnel, et dans sa grâce ineffable, vous permettent d'amener une personne par jour au Seigneur. En un an, vous aurez amené 365 personnes à Jésus. En 3 ans, à peu près 1000, et en 30 ans, 11 000 personnes. Remarquable, n'est-ce pas? Je vous souhaite ce ministère-là. Mais imaginons un autre scénario. En un an de ministère, vous ne voyez qu'une seule personne donner sa vie à Jésus. Mais vous prenez le temps de faire de cette personne un disciple, tel qu'il est présenté en Matthieu chapitre 28, en lui enseignant à mettre en pratique tout ce que Jésus a prescrit. Et au bout d'un an, cette personne sera prête à son tour de faire de même avec un autre. Un an après, vous êtes donc 2 à former des disciples. Troisième année, vous serez 4, puis 8 l'année d'après, puis 16, 32, 64. À ce rythme, il ne faudra que 33 ans pour arriver à 8 milliards. Même si cette croissance exponentielle n'est possible que si nous vivons cette mission guidée évidemment par l'Esprit. Mais le Seigneur a raison, ces mathématiques sont éprouvées. Faire des disciples qui feront des disciples, voilà ce que Jésus souhaite. Et c'était là la stratégie des premiers disciples. Et c'est bel et bien la seule méthode possible pour atteindre la terre entière. C'était la seule méthode possible pour qu'en 350 après Jésus-Christ, il y ait déjà 5 millions de chrétiens. L'Église est invitée à annoncer Jésus à ceux qui ne le connaissent pas encore, évidemment. Mais elle ne peut s'arrêter là. Nous devons nous exhorter les uns les autres à mettre en pratique tout ce que Jésus a prescrit. Et en particulier, nous stimuler à obéir, surtout lorsque nous n'avons pas envie, par nous-mêmes, d'obéir à Dieu. Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Si l'affirmation de l'autorité de Jésus était déjà promesse et encouragement, Jésus en formule une deuxième. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à mon retour. Si cette affirmation est réellement magnifique, elle ne peut ni ne doit, me semble-t-il, être détachée de ce qu'il vient d'énoncer. Je suis avec vous dans cette mission de faire des disciples. Les deux sont liés. Si nous ignorons l'appel, Alors d'une certaine manière, la promesse formulée ici n'est pas pour nous. Les disciples ont compris l'importance de l'appel qui leur était lancé. Toute leur vie a été réponse à cet appel. Quelle est la place qui est donnée aujourd'hui à cet appel à faire des disciples? Quelle est la place qui est donnée aujourd'hui à cet appel? Je ne vous cache pas être parfois attristé par la réponse à cette question. Je m'inquiète du consumérisme que l'on retrouve dans les églises. Par consumérisme, j'entends le fait de venir le dimanche, de recevoir sa dose de spirituel, puis vivre sa vie en semaine comme n'importe qui, et ne pas être disciple de Jésus au quotidien. Et je ne parle pas spécifiquement de notre Église, même si c'est une tentation qui se présente à nous, mais plus largement dans la chrétienté. Comment comprend-on en mission pour Dieu? Combien sont intéressés par la mission au loin, par exemple? Combien sont intéressés par la mission auprès? Comprenons que cette mission que Jésus formule, nous ne pouvons pas la prendre à la légère. Nous ne pouvons pas la prendre à la légère. À la différence de religion héréditaire, si vous me permettez l'expression, si l'on y réfléchit, le christianisme n'est qu'à une génération de l'extinction. Si l'expansion est possible, comme nous le disons, lorsque les chrétiens se mobilisent par l'esprit, à l'inverse, le christianisme n'est qu'à une génération de l'extinction si les chrétiens perdent le sens de l'adoration du Christ et s'ils perdent le sens de leur mission pour la gloire de Dieu. Nous ne pouvons prendre cet appel de Jésus à la légère. C'est là les dernières paroles qu'il souhaitait communiquer à ses disciples. Faites des disciples! C'est le même message qui sera rappelé à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, 2 Timothée chapitre 2, verset 1er. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi, en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner ainsi à d'autres. » C'est exactement cela. Faites des disciples. Dans ces quelques versets, le terme « tout » domine l'ensemble des propos de Jésus. Tout pouvoir, toutes les nations, tout ce que je vous ai prescrit tous les jours. Faire des disciples, c'est une mission qui demande toute notre attention. Cet appel, Jésus ne l'a pas lancé à de jeunes étudiants qui se formaient pour le ministère, mais à ses disciples. Certains étaient éduqués, d'autres pas du tout. Mais l'appel était pour eux tous. Certains étaient jeunes, d'autres moins jeunes. L'appel reste le même. L'appel que Jésus lançait à ses disciples est valable aujourd'hui encore. Cet appel, ce sont les dernières paroles de Jésus avant son ascension auprès du Père. Nous ne pouvons pas les prendre à la légère. Peut-être êtes-vous au début de la vie active. Ne perdez pas de vue cet appel et cherchez à refléter Christ au travail, en famille. Parce que Paris a besoin de l'Évangile. Peut-être Jésus vous appelle à le servir dans l'Église. Ne résistez pas à cet appel. Peut-être êtes-vous au début de la retraite. Et si vous donniez du temps pour la mission, pour l'Église ou pour les œuvres? Peut-être êtes-vous comme les disciples à douter avant de vous lancer dans la mission. Oh, ne doutez plus, ne doutez plus. Tout pouvoir lui a été donné. Oh, ne doutez plus, il sera avec vous tous les jours jusqu'à son retour. Jésus a tout fait pour nous. Il a souffert pour nous. Il est mort pour nous. Et il nous accompagne dans la mission. Toute autorité lui est donnée. Cet appel, ce n'est pas moi qui vous le lance, mais c'est Jésus lui-même. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Amen.